Podiaout, ficelle.
Bienvenue dans ce troisième épisode. Je l'ai appelé Bille en tête. Il appuie sur le bouton de démarrage. Il entend un bruit. Cela vient de la machine. Il voit des noms défiler. Il attend. Il peut maintenant commencer. La lune est ronde, massive. Elle éclaire un champ dans lequel deux hommes se regardent. Il ne les connaît pas à première vue. Il se demande s'il s'agit là d'un souvenir ou si ce dont il est témoin s'inscrit dans le déroulement de son propre présent. Que vont-ils faire, pense-t-il ? Ils ont l'air de se considérer gravement. Il voit l'homme en gris s'élancer, l'homme en orange faire de même. Tous deux tirent sur la poignée de leurs sabres respectifs. Leur lame étincelle tandis que dans les airs s'élèvent leurs deux corps. Il les voit se rejoindre dans un mouvement semblable, puis il les voit entrer en contact. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est alors passé. L'un d'eux est-il toujours sauf ? Une nouvelle fois, l'herbe est foulée par deux hommes. Il les voit, immobiles, et l'une des silhouettes, jusque-là inébranlable, tente de se mettre en mouvement. Ce ne sera que pour mieux s'étendre et disparaître dans les hautes herbes. Il attend, dans le noir. Puis viennent des couleurs. Il voit maintenant un jeune garçon lisant une lettre. Il sait que ce garçon n'est autre que lui-même, et ce qu'il lit, il sait que cela le concerne au plus haut point. Son père est mort au combat. Il doit maintenant prendre la relève. Il doit maintenant partir pour un pays qu'il ne connaît pas. Il faut qu'il aille voir un ami de son défunt père, et surtout, il doit se venger. Il est maintenant en pleine ville. Il court. Longe les façades. Deux hommes armés d'une batte de baseball viennent à sa rencontre. Un coup de katana bien placé, un deuxième, la voie est libre. Il continue. Il se retrouve face à un troisième gaillard. Il n'arrive pas à éviter le coup. Projeté en arrière, il n'a pas non plus le temps d'éviter la charge d'un chien enragé qui vient dans l'autre sens. Mais il parvient tout de même à se dégager. Il saute, s'aperçoit qu'un quatrième loupard lui barre la route. Il se retourne et fait face à celui dont il n'a pu venir à bout quelques secondes plus tôt. Au contact de sa lame, l'homme explose. Reste le quatrième loupard. Un cinquième apparaît alors derrière lui. Il frappe, précis, puis fait volte-face et assène un autre coup. Sa technique est imparable. Elle a eu raison de ses adversaires. Mais le temps presse. Il doit rester concentré. Il s'essouffle petit à petit, le cœur dans les chaussettes et pressé de toutes parts. Il continue à courir. Deux rues à droite, une rue à gauche, et ensuite tout droit. Il regarde le sol. Il est incapable maintenant de lever la tête. Une douleur lui vrille la colonne vertébrale et ses yeux lui font mal. Sans s'en rendre compte, il entre dans un mur et bascule. Il fait sombre à nouveau, comme une noirceur illuminée. Des lettres blanches s'affichent lentement tout autour de lui, et un bruit sourd se fait entendre. Il est tout seul. Il ne comprend plus où il est, mais, pour la première fois depuis longtemps, il se sent en sécurité. Quelque part, une machine redémarre, et le monde autour de lui reprend vie soudain. Il est assis sur un lit, avec à ses côtés un jeune homme qui murmure des propos insensés. C'est peut-être encore lui-même. Il ne sait pas. Il ne semble pas en tout cas être une menace. Le jeune homme fixe un espace que lui ne peut percevoir. Ses mains tremblent et il pleure. Le mur qu'il a traversé est maintenant aussi transparent que du verre, et il aperçoit les hommes de l'autre côté qui marchent tout contre lui, bloqués. Une expression totalement impersonnelle sur le visage, puis après quelques instants s'en retournent, comme ils étaient venus. Les battent, retournent sur leur dos, puis disparaissent. Lentement, il se lève, se rapproche de la rue illuminée. Il lui reste encore beaucoup à faire. La veille, tout lui est apparu clairement. Cette rue, cet immeuble, il pourrait tout lui raconter et obtiendrait des réponses. Il y est presque maintenant. Mais l'édifice lui paraît hors de portée. Il accélère le pas, tourne à droite, il est dans la rue. Il est presque à bout de souffle. Le sang sort de son crâne sans qu'il le remarque. Ses membres sont anesthésiés. Chacun de ses pas sur le trottoir semble s'enfoncer dans une texture ouatée. Il s'arrête, à nouveau, se penche, les mains sur les genoux, et ferme les yeux. Des points blancs dansent sous ses paupières. Les bruits de la rue lui parviennent, si lointains. Il ne doit pas s'évanouir. S'il perd encore une fois le fil, tout est fini, il le sait. Trois respirations profondes, il ouvre les yeux et s'élance. La lumière des réverbères, les phares, les visages des passants, déformés par la folie, la leur, la sienne, tourbillonnent. Encore avancé, malgré sa peur, malgré son corps défaillant. Il heurte lourdement une porte, 472. Il pénètre dans l'immeuble. Cage d'escalier dégueulasse, ça pue la mort. La lumière est bien trop agressive. Poussière et sacs poubelles éventrés inondent le sol. Il avance sans délicatesse à travers des monticules d'ordures, s'appuyant de temps à autre contre le mur pour ne pas se casser la gueule. Un moment, il s'imagine s'écrouler et ne jamais réussir à se relever, trop épuisé. Finir sa vie, le nez blotté dans ses immondices, terminer sa vie comme une merde, une fiente de pigeon qui s'écrase lamentablement sur le pare-brise d'une bagnole dans l'indifférence totale. Ouais tiens, et pourquoi pas, après tout. Pourquoi ne pas conclure cette journée pathétique comme il se doit, dans la dignité la plus crasse. Puis en fait non. Passé cette soudaine pulsion suicidaire, il se résout à poursuivre son chemin et arrive tout de même à destination. Cette fameuse porte vert pomme dont on lui avait parlé, il n'avait qu'à frapper pour enfin découvrir la vérité. Rencontrer enfin son jumeau qu'il n'avait jamais vu. Il n'a qu'à frapper pour se faufiler dans l'appartement. En moins de 5 minutes, il pourrait avoir quitté cette cage d'escalier dégueulasse. Il pourrait être à l'abri, et qui sait, peut-être même trouver un peu de chaleur auprès de cet étranger qui deviendrait sa famille. Puis il réfléchit, et il tomba sur un autre scénario. Cette cage d'escalier pourrait être à l'image de son frère jumeau. Il se retrouverait alors devant un homme qui se lave uniquement quand il y pense, qui est capable d'avaler un cornflakes en fruits depuis plusieurs mois au fond du canapé, et qui, à défaut d'avoir encore une assiette propre, en a acheté en carton. Alors bon, dans ce cas, il se dit que les escaliers ne sont pas si mal. Après tout, il y a de la moquette. Il se décide donc à ne plus lutter et à laisser ses jambes lui faire défaut. Doucement mais sûrement, sa colonne vertébrale vient rater la tapisserie déjà délabrée, pour finir jusqu'aux plaintes. Dans le même moment, la minuterie émet ses derniers cliquetis, et il se retrouve dans le noir. La scène pourrait s'arrêter là. Il pourrait remettre cette rencontre à plus tard. Il se dit que c'est forcément un signe si la montée des marches a été si difficile, et si à présent l'idée même de rester debout n'est pas tenable. Il se dit que demain pourrait être un jour meilleur, pour lui, pour son frère, pour eux. Il place alors ses mains de chaque côté de son corps pour se relever, et finalement prendre ses jambes à son cou. Mais au moment où il s'appuyait sur la moquette, il se rendit compte que sa main gauche avait trouvé une inconnue sur son chemin. Ce qui aurait pu l'effrayer, l'intrigua. Il se mit à chercher ce que cette chose moelleuse et peu compacte pouvait être. Il prit donc le temps de l'écraser sous sa main, puis de l'émietter et de le reconstituer, telle une pâte à modeler. Après le toucher, il passa à l'odorat. C'est là qu'il comprit. Il se leva brusquement et alluma la lumière. Il avait bien deviné. Il s'agissait d'un excrément de chat. Furieux de s'être prêté au jeu alors qu'il connaissait l'état des lieux, il se dit qu'il ne valait pas mieux que cette cage d'escalier, et sans doute pas mieux que son frère jumeau. Un moment pathétique de plus dans sa journée. Mais au lieu de s'effondrer, en pleurs, ce sont ses éclats de rire qui enterrent le hall. Voilà, c'est fini. Je tiens à remercier Olivier, Anna, Jérémy, Sophie pour leur participation à l'écriture de ce texte. Sans oublier les musiciens de cet épisode qui, cette fois-ci, n'étaient autres que l'expédition spatiale Fricadelle. À la prochaine!